Bonjour à tous, c'est un plaisir d'être parmi vous ce matin. Comme l'a dit Olivier, je suis étudiant à l'Institut biblique de Bruxelles. Cela fait un an et demi que nous sommes à Bruxelles avec mon épouse. Initialement, nous venons du sud de la France, du Var. Et donc, depuis trois semaines, nous sommes si heureux de voir du soleil à Bruxelles. Quelle bénédiction. La prédication de ce matin se portera dans le livre de la Genèse, au chapitre 2. Mais avant de lire ce passage, j'aimerais vous présenter quatre personnes. La première, c'est Caleb. Caleb est un étudiant en secondaire. Il travaille très dur tous les jours pour pouvoir aller dans les études supérieures de son choix. Malheureusement, sa dyslexie l'empêche de récolter pleinement le fruit de son travail. Il travaille si dur, plus dur que les autres. Mais les résultats ne sont pas à la hauteur de son travail. C'est dur. J'aimerais vous présenter Marianne. Marianne est une jeune femme dans la vie active. Et hier soir, elle a regardé un reportage sur la condition des poules en élevage de batterie. Tout d'abord, elle est intriguée, puis horrifiée. Comment pouvons-nous accepter d'acheter des œufs issus de cet exploitage ? C'est horrible. Comment pouvons-nous faire ça ? Puis il y a Philippe. Lui, il est ingénieur et il s'inquiète de notre gestion des ressources sur notre planète. Chaque rapport qu'il lit le confronte dans ses inquiétudes. Qu'allons-nous faire lorsque nous n'aurons plus assez d'énergie fossile, ni de lithium pour nos batteries ? Et puis enfin, il y a Romy. Pendant que ses enfants étaient à la maison, elle arrivait à supporter et à endurer les remarques acerbes de son mari. Il est violent dans ses propos. Mais maintenant que les enfants sont partis, c'est de plus en plus dur de se retrouver seul avec lui. Hier soir, son mari lui a jeté une tasse dans sa direction. Cette fois-ci, quelque chose s'est brisé en elle. Avant le chapitre 2 de la Genèse, il y a évidemment le chapitre 1. Et au chapitre 1, nous lisons que, avant la création de toute chose, de tout ce qui est matériel, il y avait Dieu. Dieu est le créateur d'absolument toute chose, de tout notre univers, chaque personne, chaque objet. Mais comment réagiraient Caleb, Marianne, Philippe et Romy si on leur disait que Dieu est le créateur de ce monde dans lequel nous vivons ? Dieu a-t-il créé un monde dysfonctionnel ? Dieu a-t-il créé un monde mauvais ? Ce sera l'objet de notre étude. Genèse chapitre 2, à partir du verset 4. Telle fut l'histoire du ciel et de la terre quand il fut créé. Lorsque l'Éternel, Dieu, fit la terre et le ciel, il n'y avait encore aucun arbuste des champs sur la terre et aucune herbe des champs ne poussait encore, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre et il n'y avait pas d'homme pour cultiver le sol. Cependant, une vapeur montait de la terre et arrosait toute la surface du sol. L'Éternel Dieu façonna l'homme avec la poussière de la terre. Il insuffla un souffle de vie dans ses narines et l'homme devint un être vivant. L'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'est et il y mit l'homme qu'il avait façonné. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toutes sortes, agréables à voir et porteurs de fruits bons à manger. Il fit pousser l'arbre de la vie au milieu du jardin, ainsi que l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là il se divisait en quatre bras. Le nom du premier est Pishon, il entoure tout le pays de Havila où se trouve l'or. L'or de ce pays est pur, on y trouve aussi le bdellium et la pierre d'onyx. Le nom du deuxième fleuve est Gihon, il entoure tout le pays de Couche. Le nom du troisième est le Tigre, il coule à l'est de l'Assyrie. Le quatrième fleuve, c'est l'Euphrate. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour qu'il le cultive et le garde. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme : tu pourras manger les fruits de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras, c'est certain. » L'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide, qu'il soit son vis-à-vis. » L'Éternel Dieu façonna à partir de la terre tous les animaux sauvages et tous les oiseaux du ciel, puis il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Il voulait que tout être vivant porte le nom que l'homme lui donnerait. L'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux sauvages, mais pour lui-même, il ne trouva pas d'aide qui soit son vis-à-vis. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme à partir de la côte qu'il avait prise à l'homme et l'amena vers l'homme. L'homme dit, « Voici cette fois-ci celle qui est faite de mêmes os et de la même chair que moi. On l'appellera femme parce qu'elle a été tirée de l'homme. » C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils ne formeront qu'un. L'homme et sa femme étaient tous les deux nus et n'en avaient pas honte. Que le Seigneur bénisse sa parole. Premier point de notre prédication. Si Dieu a créé les hommes, c'est pour qu'ils puissent jouir de sa présence. Je ne sais pas si vous avez été frappé comme moi de l'abondance des détails que nous avons dans ce texte. Par exemple, pourquoi au verset 8, on nous précise que ce jardin en Éden était du côté de l'Est ? Alors ce n'est pas un ornement stylistique, ce n'est pas un excès descriptif. Chaque détail compte, ils sont là pour une raison. En fait, nous croyons que Moïse est l'auteur de ce livre de la Genèse, mais qu'il a aussi écrit les quatre suivants, le Pentateuch. Et ce qui est intéressant, c'est que lorsque l'on lit le Pentateuch, nous remarquons que dès qu'un homme s'éloigne de Dieu, il va vers l'ouest pour vous. Mais dès que l'homme se rapproche de Dieu, il va vers l'est. Et donc si Moïse nous dit que ce jardin d'Éden se situe à l'est, c'est pour dire que Dieu était particulièrement présent dans ce jardin. C'était un lieu idéal. Pareil au verset 10 à 14, pourquoi passer autant de temps à décrire ces fleuves ? Est-ce que ça nous intéresse réellement ? Juste essayer d'imaginer de quelle manière ils sont décrits. Il y a un fleuve principal en bas qui se divise en quatre branches. Et ces fleuves sont entourés et parsemés d'or et de pierres précieuses. Et ça, visuellement, ça devrait nous faire penser à un chandelier. En fait, les premiers lecteurs de ce chapitre 2, ce n'est pas nous ce matin, mais c'était un peuple, le peuple d'Israël. Ce peuple se trouvait à la frontière d'un pays que Dieu leur avait promis. Et là où ils se situaient, ils pouvaient et entendre Moïse qui leur lisait Genèse 2, mais aussi du coin de l'œil, ils pouvaient voir une sorte de bâtiment, une construction, une tente. Pas n'importe quelle tente, une grande tente qu'on appelait le tabernacle. Comme un sanctuaire, comme un temple qui était au milieu du peuple d'Israël. En début d'année, il y a un événement qui a marqué un peu la France, ça a été la réouverture de Notre-Dame de Paris. Des milliers de personnes ont voulu assister à cet événement. Il y avait des chrétiens, des non-chrétiens, des musulmans, des agnostiques. Des milliers de personnes sont venues voir cette réouverture. Et ça nous montre juste que nous, en tant qu'hommes, nous sommes tout de même attirés par la transcendance, par quelque chose de bien plus grand que nous, de bien plus glorieux. Je me souviens, la première fois que je suis venu ici pour la rentrée à l'Institut biblique de Bruxelles, j'étais en bas et j'ai vu l'inscription ici, « Gloire à Dieu !» avec votre plafond qui est si grand, ces lettres qui pointent vers le haut. J'ai été un peu étourdi. Ça m'a fait quand même penser à la grandeur et à la sainteté de Dieu. Mais toutes les cathédrales de France et de Belgique ne pouvaient pas rivaliser avec ce tabernacle. Pour une simple raison, c'est que Dieu était particulièrement présent dans ce tabernacle, dans cette tente, dans ce temple. Et donc là, ici, si Moïse nous décrit le jardin d'Éden un peu comme un chandelier, c'est encore pour nous montrer cette même vérité. Dieu était présent, particulièrement présent dans ce jardin d'Éden. C'était un lieu idéal. Alors, est-ce que cela nous fait vraiment rêver? Je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui nos contemporains puissent se réjouir à cette idée que Dieu soit présent. Pourtant, Moïse veut nous montrer que la présence de Dieu dans ce jardin était une réelle bénédiction pour l'homme. Regardez le verset 15 avec moi. L'Éternel Dieu prit l'homme. Ce verbe prendre n'est pas un verbe comme les autres. Ce n'est pas juste l'action de prendre un objet et de le poser comme une lionne prendrait son petit par le cou pour le déposer à côté. Il est réutilisé deux fois dans le Pentateuque. La première fois, c'est en Genèse 19, où l'ange de l'Éternel saisit par la main Lot et ses filles pour les mettre en sécurité. Et aussi en Deutéronome 3, où là, c'est l'Éternel qui saisit le peuple d'Israël pour lui accorder du repos. En fait, ce que nous comprenons, c'est que dans ce jardin d'Éden, là où Dieu était particulièrement présent, eh bien, ce que Dieu voulait pour l'homme, c'est qu'il soit dans le repos et la sécurité. Quel lieu idéal ! Quel lieu pour pouvoir profiter de notre pension ? Malheureusement, il est vrai que cet détail n'est peut-être pas encore si intéressant que ça pour nous. Peut-être que nous avons l'impression de nous retrouver devant ces immenses peintures où nous voyons des nuages blancs avec des petits anges tout nus qui chantent avec une petite lyre. Qu'est-ce que c'est ennuyeux ! Mais ce n'est pas le plan de Dieu. Dieu a une mission pour l'homme, et c'est notre deuxième point. Il veut que l'homme travaille comme un prêtre. En début d'année, il y a un film qui est sorti, je ne sais pas si vous l'avez... vu, c'est un film qui raconte l'histoire vraie du théologien Dietrich Bonhoeffer. Donc c'était un théologien qui a vécu à la Seconde Guerre mondiale et qui a été impliqué dans un complot visant à assassiner Hitler. Il a échoué, il a été pendu dans un camp de concentration. Sa vie est très intéressante, je me permets d'ouvrir une parenthèse qui nous sera utile un peu pour la suite. Mais Dietrich Bonhoeffer était un homme à son époque qu'il s'est levé contre l'influence de ce monde. À 21 ans, il a commencé ses études théologiques. À mon âge, à 27 ans, il est rentré dans l'opposition contre Hitler et il a été pendu à 39 ans. Quel homme ? Je ferme la parenthèse, nous y reviendrons plus tard. Et parmi ses nombreux ouvrages, ses nombreux commentaires, je ne vous les conseille pas forcément, il y en a certains qui ne sont pas terribles, mais il a écrit quelque chose d'intéressant sur Genèse chapitre 2. En fait, il réfléchit à la question, pourquoi dans ce jardin parfait de l'Éden, il y avait ces deux arbres au milieu ? Pourquoi Dieu a-t-il fait ça ? Et je le cite, selon Dietrich Bonhoeffer, « L'arbre de la connaissance du bien et du mal représenterait la limite que Dieu donne à Adam. » Ainsi, cette limite n'est pas quelque chose d'accessoire ou de secondaire. Cette limite est le centre, le cœur même de la vie et de la relation de Dieu avec l'homme. En bref, l'homme est une simple créature, et l'essence même de l'homme est d'exister en relation avec Dieu selon les termes que Dieu a fixés pour lui. Le cœur même de l'existence de l'homme, c'est de vivre selon les limites que Dieu lui a données. Et il me semble que le texte ne va pas plus loin et que ça ne sert à rien de spéculer sur pourquoi il y avait cet arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est juste ce que le texte veut dire. Et du coup, il n'y a rien de surprenant à ce que la clé de notre texte se trouve dans l'interdiction de manger de cet arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais quel est ce fruit de la connaissance du bien et du mal ? Certaines personnes ont dit que c'était la conscience sexuelle. Je ne pense pas que ce soit ça. Certains pensent que c'est le discernement moral ou le désir d'une vie indépendante de Dieu. Je ne pense pas que ce soit aussi précis que ça. Il me semble que Moïse lui-même nous donne la réponse un peu plus loin en Deutéronome chapitre 1. En fait, c'est juste une image pour lui pour dire que la connaissance du bien et du mal, si on en mange, c'est juste se rendre coupable et condamnable. Le texte ne va pas plus loin. N'essayons pas, par nos désirs, d'aller au-delà de ce que le texte dit. C'est tout ce que nous avons à notre disposition. Mais il est vrai que se dire que oui, Dieu a créé un monde si magnifique, si beau, si diversifié, et puis là, il y a une interdiction qui tombe au milieu, ça ne nous fait pas encore rêver, pas encore. Mais juste, n'oublions pas que cette interdiction, ce n'était pas juste une interdiction pour le plaisir d'interdire, c'était une bénédiction, une grâce de Dieu. Parce que si Dieu a interdit l'accès à cet arbre, de manger de ce fruit-là, pour être précis, c'est parce que Dieu ne voulait pas que l'homme meure. Vous ne devez pas manger ce fruit-là, parce que si tu manges, tu mourras certainement. Et Dieu ne veut pas que l'homme meure. C'est juste un test de fidélité. Est-ce que l'homme obéira à la parole de Dieu? Au contraire, Dieu est tellement généreux. Verset 9, dans ce jardin, il y avait des arbres de toutes sortes, agréables à voir et porteurs de fruits, bons à manger. Il y avait une infinité d'arbres. En fait, tout était autorisé sauf un seul interdit. Quelle générosité de Dieu. Ici, ce qui est en jeu, ce qui est central, c'est de savoir si l'homme fera confiance à la parole de Dieu. Mais le rôle de l'homme n'est pas seulement quelque chose de négatif. Tu ne mangeras pas ça. Il y a un ordre qui est positif. Pourquoi l'homme a-t-il été placé au milieu du jardin? Verset 15. Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin pour qu'il le cultive et qu'il le garde. Cultiver et garder. Ces deux verbes-là, ce sont exactement les mêmes qui sont utilisés pour décrire le travail des prêtres au tabernacle. Littéralement, un prêtre devait cultiver et garder. En fait, ça veut dire tout simplement travailler pour la gloire de Dieu et lui obéir. Ici, si Dieu a mis Adam au milieu du jardin, c'est pour qu'il puisse travailler pour lui rendre gloire et obéir à la parole de Dieu. Et j'aimerais faire un petit résumé de cela juste en reculant un peu en arrière, en Genèse chapitre 1. Dans Genèse chapitre 1, nous voyons que Dieu a créé le monde en 6 jours plus 1. Et ces 6 premiers jours peuvent se diviser en 2 catégories. Les 3 premiers jours, Dieu crée. Et les 3 derniers jours, Dieu sépare ce qu'il a créé. Dieu crée et structure. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est exactement la même mission qui est demandée à Adam et aussi aux prêtres. Les prêtres, ce qu'ils devaient faire, c'est qu'ils devaient séparer aussi. Ils devaient séparer ce qui est pur de ce qui est impur, de ce qui est saint et de ce qui est profane. L'homme doit être le reflet de l'image de Dieu, et donc l'homme doit imiter Dieu dans sa semaine de création. Alors l'homme ne doit pas créer, mais l'homme doit procréer, faire des enfants. Et il doit dominer, structurer la création. C'est ce que nous lisons en Genèse chapitre 1, verset 18. Dieu bénit l'homme et la femme et leur dit « Reproduisez-vous, devenez nombreux, remplissez la terre et soumettez-la, dominez. » Dieu a créé et a structuré. Les hommes doivent procréer et dominer. Nous devons refléter le travail de Dieu. Et donc ici, Adam se retrouve avec une tâche incroyable. Il doit être le représentant de Dieu sur terre. Il doit refléter son Dieu créateur. Adam est un prêtre qui domine et prend soin de la création du Dieu éternel et trois fois saint. Quel travail idéal! Il y a quelques années, il y a eu un scandale parce qu'il s'est avéré que plusieurs ingénieurs avaient été recrutés juste pour de simples quotas. Et parmi eux, il y en a un qui témoignait et qui disait que pendant plusieurs mois, même, voire plusieurs années, ses patrons lui avaient donné des missions fictives. En fait, il s'était rendu compte que son travail n'était ni utile, ni utilisé. Et c'était horrible pour lui. Pourtant, il était ingénieur. Il avait un bon salaire, plutôt une bonne place dans la société. mais son travail n'avait aucune utilité. Mais ici, Adam a la plus grande tâche que nous puissions rêver. Il était prêtre au service de l'éternel Créateur. Mais comme nous avons vu, ce que Dieu a demandé à Adam, c'était de se multiplier et de dominer. Et les termes que Dieu utilise, ce sont les termes d'une alliance, c'est-à-dire d'un contrat officiel. C'est-à-dire que si Adam obéit, il sera béni, mais si Adam désobéit, il sera maudit. Là, on devrait se demander, mais comment Adam, s'il est seul, peut-il procréer ? Comment Adam peut-il avoir des enfants ? Adam ne peut pas obéir au commandement de Dieu. C'est notre troisième point. La nécessité du mariage pour refléter l'image de Dieu. Comment Adam peut-il procréer et dominer seul ? Verset 18, c'est la raison pour laquelle Moïse nous dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas suffisant, en fait, Adam. Adam a besoin d'aide. Adam a besoin d'Ève. C'est la raison pour laquelle, au verset 18, Dieu dit qu'il va faire une aide qui soit le vis-à-vis d'Adam. Est-ce réducteur et misogyne de qualifier la femme comme une simple aide, comme un mémo qu'on pourrait mettre sur un frigo pour nous aider à ne pas oublier quelque chose ? Certainement pas. La raison est assez simple. En Exode 18, Moïse dit que Dieu est son aide. Ce n'est pas quelque chose de réducteur. C'est extrêmement important. Ève est une partenaire indispensable à la réalisation des commandements de Dieu. En fait, si Ève est l'aide de Adam, ce n'est pas pour pointer à l'infériorité d'Ève, certainement pas. C'est pour pointer à l'insuffisance d'Adam. C'est la raison pour laquelle Dieu, à partir de la côte de l'homme, va créer Ève. Et ici, nous voyons que il y a une parfaite complémentarité entre Adam et Ève. Souvent, on pense que, puisqu'elle a été créée à partir de sa côte, que le rôle de Adam et de Ève sont parfaitement interchangeables. Il ne me semble pas que c'est ce que le texte veut dire. Il me semble que Dieu donne des rôles spécifiques à Adam et à Ève. Il me semble que Matthew Henry, un commentateur de la Bible, arrive à bien résumer cette différence de rôle. En parlant d'Ève, il dit « Ève n'a pas été faite de sa tête pour dominer Adam, ni de ses pieds pour être piétinée par lui, mais de son côté pour être son égal, en dignité, en honneur, et sous son bras pour être protégée et près de son cœur pour être aimée. » Il y a une complémentarité entre Adam et Ève. D'ailleurs, Dieu donne le commandement à Adam. Et ce que Dieu demande à Adam, c'est d'exercer une domination sur tous les animaux de la terre. Et de quelle manière Adam exerce sa domination ? En nommant les animaux. Tu seras un lion, tu seras une pie, tu seras une langouste, tu seras un serpent. Adam devait nommer tous les animaux de la terre. Et Dieu lui confère l'office de roi. Non seulement Adam est prêtre, mais en plus, il est roi. Et nous pouvons distinguer une structure, un ordre que Dieu a établi dans la création. Il y a Dieu, l'homme, la femme et les animaux. Et cet ordre est important. Nous y reviendrons un peu plus tard. Et quels sont les premiers mots ? Quelle est la réaction de Adam lorsqu'il voit Ève ? C'est incroyable quand il voit Ève. Puisque ici, la première chose que Adam dit en voyant Ève, c'est un poème. Adam est si heureux de retrouver et de trouver Ève. Quelle relation idéale entre Adam et Ève. Quelle joie Adam a dû ressentir lorsqu'il a vu Ève. Et ici, si le premier couple de l'humanité est décrit dans ce jardin idyllique, c'est parce que, initialement, la relation entre les hommes et les femmes était parfaite, harmonieuse. Ils étaient parfaitement égaux en dignité, en relation avec Dieu. Et c'est si différent de ce que nous voyons aujourd'hui. Selon quelques statistiques, 10% des hommes et 11% des femmes déclarent avoir été infidèles au cours des 12 derniers mois. En 2019, 146 femmes ont été tuées par leur partenaire en France. Je n'ai pas trouvé les chiffres pour la Belgique. En 2018, 213 000 femmes ont subi des violences physiques et ou sexuelles de la part de leur conjoint. En Belgique, une part croissante de la population exprime des sentiments de solitude malgré la vie en couple. En France, près de 45% des mariages finissent par un divorce. Nous sommes bien loin de ce que Dieu avait créé initialement pour l'homme et la femme. Mais là, au verset 24, Moïse interrompt sa narration pour y faire une remarque, un petit commentaire. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, ils ne feront qu'un. Pourquoi Moïse dit ça à ce moment-là? À quoi ça sert ce verset? On a pu le dire plus tard. Pourquoi en parler juste après la création de la femme? Pourquoi en parler à ce moment-là du récit? Deux verbes sont encore intéressants. Quitter et s'attacher. Lorsque le peuple d'Israël était fidèle à Dieu, il s'attachait à Dieu. Il s'attachait à ses commandements. Et lorsque le peuple d'Israël était infidèle à Dieu, il quittait Dieu. C'était les mêmes mots qui étaient utilisés. En fait, ici, Moïse, encore une fois, parle en termes d'alliance. Alors, je sais que c'est très lourd ce que je suis en train de dire, mais ça va être important pour la suite, faites-moi confiance. Mais ici, nous pouvons distinguer deux alliances dans notre chapitre. Il y a une première alliance entre Dieu et Adam, et une deuxième alliance entre Adam et Ève. Nous avons deux alliances, et Moïse veut qu'on ait les deux en tête pour le chapitre 2. Mais nous y reviendrons un peu plus tard. Et puis enfin, ce verset 25. L'homme et la femme étaient tous deux nus et n'en avaient pas honte. Pourquoi les deux étaient tous les deux nus? En hébreu, nu, ça se dit arum, et ça ressemble très fortement à arom, qui veut dire rusé. En fait, nous connaissons la suite. Ils avaient un seul commandement. Un seul commandement que Dieu a donné à Adam et Ève. Un seul commandement que Dieu a donné directement à Adam. Et nous savons qu'en Genèse chapitre 3, l'homme et la femme ont désobéi à Dieu. Ils ont quitté l'alliance. Ils ont désobéi au commandement de Dieu. Et c'est intéressant. Alors qu'il y avait cet ordre, Dieu, l'homme, la femme et les animaux, et bien là on a un serpent qui tente la femme et Adam qui reste silencieux, et qui se laisse avoir. Adam qui est totalement silencieux, qui est totalement coupable de ne pas avoir intervenu. Tout est bouleversé. Il y avait le monde initial que Dieu avait créé et à cause du péché, tout est chamboulé et nous vivons dans un monde dysfonctionnel. Si Caleb est si triste de ne pas réussir comme il voudrait dans ses études, c'est normal. Initialement, le travail était quelque chose de bon et de parfait. Si Philippe est inquiété par la gestion des ressources et de notre planète et même scandalisé par la manière dont on exploite les animaux, c'est normal. Initialement, l'homme et la femme devaient prendre soin de la création, pas de la détruire. Et si Romy est si triste de la relation avec son mari, de la violence de son mari, c'est tout à fait normal. Initialement, la relation entre l'homme et la femme était parfaite. Il faut juste se dire que à chaque fois que nous sommes tristes du monde dans lequel nous vivons, c'est un sentiment qui est parfaitement normal. Peut-être que certains d'entre vous ne croient pas forcément à ce qu'il y a écrit dans la Bible, mais j'aimerais juste vous dire quelque chose. À chaque fois que vous êtes triste, que vous êtes désemparés à cause de la souffrance, de la violence, de l'injustice. Cela montre que nous aspirons à quelque chose de plus grand, que nous aspirons à quelque chose de plus juste. Nous avons été créés pour le jardin d'Éden, pas pour un monde dysfonctionnel. C'est la raison pour laquelle nous ne pourrons jamais être pleinement heureux et satisfaits de ce monde injuste et immoral. Mais la Bible ne s'arrête pas à Genèse chapitre 3. Il y a un don de développement et j'aimerais vous divulgâcher la fin de l'histoire. Je vais vous lire un passage de Apocalypse chapitre 21. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'existait plus. Je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, en fait un nouveau jardin d'Éden, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une mariée qui s'est faite belle pour son époux. J'entendis une voix forte venant du ciel qui disait « Voici le tabernacle de Dieu parmi les hommes. Il habitera avec eux, il sera ce peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux. La mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car ce qui existait avait disparu. » Voilà notre espoir. Nous attendons un nouveau jardin d'Éden, bien plus grand, bien plus glorieux. Et remarquez ici l'image de l'époux, de la mariée qui est utilisée. Patience, nous y reviendrons. Voici ce qui nous attend. Un monde parfait, un monde glorieux, où toute injustice sera redressée et où Dieu lui-même, par Jésus-Christ, essuiera les larmes de nos yeux. J'aimerais vous poser une question. Aspirez-vous à ce repos? J'aimerais m'adresser à deux catégories de personnes ce matin. J'aimerais m'adresser à toi qui travailles si dur. La labeur de ton travail t'épuise. Tu enchaînes peut-être les heures supplémentaires pour pouvoir boucler les fins de mois. Peut-être que la difficulté de ton travail a usé ton corps plus rapidement qu'il ne le faudrait. Peut-être que tu es écrasé par tes responsabilités. Peut-être que tu trouves ça injuste que ce qu'on te prélève de ton salaire, est bien trop élevé et cela prive le fruit de ton travail. Peut-être que tu es découragé et que tu n'en peux plus. Et c'est dur. C'est dur. J'aimerais t'encourager à cela. Lève les yeux vers ce qui t'attend. Parce que ce qui t'attend, c'est un jardin. Un jardin d'Éden dans lequel tu pourras profiter de la paix et de la sécurité. Mais j'aimerais m'adresser à d'autres personnes. À toi qui te sens inutile. Peut-être que tu trouves ton travail ennuyeux. Peut-être que tu as même honte de dire dans quoi tu travailles. Peut-être que la société ne reconnaît pas à ta juste valeur. Par exemple, si tu es mère au foyer, ce n'est pas quelque chose d'important. Ce n'est pas le cas, je le précise, ma femme est mère au foyer. Peut-être qu'à cause d'un handicap ou de ta santé, tu n'es plus en capacité de travailler et que tu culpabilises de recevoir des aides. J'aimerais t'inviter à lever les yeux vers ce jardin d'Éden. Parce que quand tu y seras, mon ami, tout ce que tu feras sera revêti d'un immense prestige. Tout ce que tu feras sera tellement important. Tu régneras avec Christ sur la nouvelle création. Voilà ce qui t'attend. Et il est vrai que nous vivons dans un monde où nous sommes harcelés par les notifications, nous n'avons plus le temps de nous arrêter, de méditer, de réfléchir. Et j'aimerais vous lancer un défi, vraiment. À partir de maintenant, une fois par semaine, faites une balade dans votre quartier. Essayez de trouver un arbre que vous trouvez particulièrement beau. Et profitez de cette occasion-là pour vous dire, dans ce nouveau jardin d'Éden, il y aura aussi un arbre, l'arbre de la vie. Et nous serons dans la présence bienheureuse de notre Seigneur. Vivons à la lumière de l'éternité. Et c'est la raison pour laquelle, précédemment, j'ai fait une petite parenthèse sur la vie de Dietrich Bonhoeffer, un homme qui s'est levé et qui n'a pas fui ses responsabilités, qui a dénoncé l'injustice, qui s'est levé parce qu'il était convaincu de la véracité de la Bible et convaincu de la vérité de l'Évangile. Il avait 27 ans. Et je sais que dans cette salle, il y a certaines personnes qui sont encore jeunes et qui ne savent pas vraiment quoi faire de leur vie. Nous sommes dans un monde sans repère. Nous n'avons plus aucun repère. Nous n'avons plus rien, plus de modèle à imiter. Chacun suit sa propre voie. Nous n'avons jamais été dans un monde avec des valeurs aussi opposées aux valeurs de l'Évangile et du christianisme. Et la réalité, et je parle pour moi-même, c'est que nous nous laissons emporter par le courant de ce monde. Hier, il y a eu une conférence qui s'est déroulée à Charleroi, qui s'appelle « Chrétienne consacrée ». Quelle joie de voir des sœurs en Christ se lever pour la propagation de l'Évangile. Où est la conférence « Chrétien consacré » ? Nous avons besoin d'hommes qui se lèvent dans les églises. Des hommes de prière, des hommes attachés à la parole, des hommes qui regardent à l'échelle de l'éternité. Nous n'avons qu'une seule vie. Elle passera vite. Seul restera ce qui a été fait pour Christ, pour reprendre les paroles de Charles Studd. Mais qu'est-ce qui pourrait nous motiver à nous lever et à vivre à cette échelle de l'éternité ? Qu'est-ce qui pourrait nous motiver à nous lever pour être des hommes et des femmes de prière, pour être des hommes et des femmes qui propagent cet évangile, pour être des hommes et des femmes qui se lèvent dans l'Église? Quelle est notre source de motivation? Par la manière dont nous allons pouvoir entrer dans ce jardin d'Éden. À travers Adam, l'humanité tout entière a échoué dans son alliance avec Dieu. Nous sommes tous coupables. Et souvenez-vous du parallèle entre l'alliance entre Dieu et Adam et entre Adam et Ève. C'est parce que nous sommes au bénéfice d'une nouvelle alliance. Nous avions besoin d'une nouvelle alliance, supérieure en gloire. Nous avions besoin d'un nouvel Adam, d'un nouveau prophète, d'un nouveau roi, d'un nouveau prêtre. Et le Nouveau Testament identifie ce nouvel Adam, ce nouveau roi, ce nouveau prophète, ce nouveau prêtre dans la personne de Jésus-Christ. Et le Nouveau Testament parle aussi d'une nouvelle épouse. C'est l'Église. Et c'est pour l'Église que Christ s'est sacrifié. Jésus a pris ses responsabilités, contrairement à Adam. Il s'est livré jusqu'au bout sur cette croix. C'est la raison pour laquelle Moïse a interrompu sa narration pour nous dire que l'homme et la femme quitteront leurs parents pour devenir une seule chair. C'est parce que Moïse savait que la solution viendrait par un mariage. Le mariage entre Christ et son épouse. Dieu éternel, incarné en un simple homme, lui qui existait en toute gloire au sein de la Trinité, s'est laissé dépouiller pour venir sur terre. Avec une vie d'humiliation terrible. Jésus, qui a été l'homme le plus viril de tous les temps, il a montré sa virilité par l'amour qu'il a manifesté aux personnes qui l'entouraient. Il a accepté de porter sa responsabilité jusque sur cette croix, où il a subi la pire chose que nous pourrions subir, la séparation de Dieu. Et grâce à ce sacrifice, nous sommes l'épouse de Christ. Nous sommes son bien précieux. C'est par cette nouvelle alliance, celle de Jésus-Christ, que nous pourrons entrer dans ce nouvel jardin d'Éden. Prions. Notre Dieu, notre Père, comment ne pas être émerveillé de qui tu es lorsque nous réalisons que ce qui nous attend, c'est ce nouveau jardin d'Éden où nous pourrons être dans ta présence pour l'éternité, où nous pourrons régner avec ton Fils Jésus-Christ, où nous serons des prêtres qui pourront parfaitement refléter ta gloire. Et merci parce que si cela est une espérance pour nous, et une certitude, c'est uniquement en vertu de l'œuvre de ton Fils Jésus-Christ. Et c'est en son nom que nous te prions. Amen.